France Culture.
Les nuits de France Culture.
Marc Chagall, du Shtetl de Vitebsk au Soleil de Provence, un programme d'archives proposé par Alban Penaranda. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans les nuits de France Culture pour une nuit consacrée à Marc Chagall. Comme l'a encore prouvé le succès public et critique de l'exposition de l'Hôtel de Caumont d'Aix-en-Provence, Marc Chagall du noir et blanc à la couleur, Chagall fait toujours courir les foules. C'est un fait, s'il n'a pas toujours fait l'unanimité parmi les critiques, Chagall a depuis longtemps conquis le plus large des publics qui, au fil des années et des expositions qui lui sont consacrées, témoignent une sensibilité et une curiosité sans cesse renouvelées à son œuvre. Cette nuit que nous lui consacrons n'a pas pour ambition de combler le hiatus qui a pu exister entre la critique et le public autour de Chagall, mais elle sera peut-être l'occasion de revenir sur ce qui peut l'expliquer. Elle sera surtout l'occasion, à l'écoute des archives qui en composent le programme, à l'écoute de la voix de Marc Chagall, de voyager dans la vie d'un créateur inclassable, réductible à aucune école ou avant-garde, l'occasion de saluer un artiste qui, du Shtetl de Vitebsk à Saint-Paul-de-Vence, en passant par Saint-Pétersbourg, Paris et l'Amérique, d'exil choisi en exil forcé, aura traversé le XXe siècle en célébrant partout la vie, l'amour, la sensualité et la poésie biblique reçue en héritage du monde englouti de sa Litvakie natale. Pour nous éclairer sur les différentes étapes de l'existence et de l'œuvre de Marc Chagall, c'est à Ambre Gauthier, docteur en histoire de l'art, et Mérette Meyer, petite fille du peintre et vice-présidente du comité Marc Chagall, toutes deux commissaires de l'exposition Chagall du noir et blanc à la couleur, que nous avons demandé d'accompagner le voyage de cette nuit. Ambre Gauthier, Mérette Meyer, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Alban.
Alors que vient de s'achever l'exposition d'Aix-en-Provence, comment expliquer l'attrait toujours renouvelé qu'exerce l'œuvre de Marc Chagall sur le public ? Mérette Meyer.
Oui, en effet, pour le public, l'artiste est loin d'être inclassable. Ils l'ont admis dans leur cœur. Et cette exposition nous a éclairé aussi par la joie que le public a exprimée. C'est-à-dire qu'ils ont même pris le pli d'adhérer à notre discours, à ce propos qui était pas très difficile, mais quand même, c'était pas gagné d'avance que ça puisse vraiment se rayonner dans les espaces et faire admettre que c'est un discours qui puisse plaire à tout le monde. Non seulement le discours a vraiment été une conquête, mais ils ont compris et suivi le cheminement de ce discours qui nous tenait vraiment à cœur.
Quelle était l'idée de départ de cette exposition, de cette plongée dans l'œuvre de Chagall, Ambre Gauthier ?
Alors, toute l'idée de cette exposition, en fait, c'était de replacer le noir et blanc, l'utilisation du noir et blanc dans l'œuvre de Marc Chagall, par rapport à son utilisation de la couleur. Donc, expliquer, finalement, l'explosion de couleur, qui est la sienne des années méditerranéennes, donc des années 1950 aux années 1980, par cet apprentissage du noir et blanc. Donc, ce qui était vraiment important pour nous, et ce qui était plutôt novateur comme approche, c'était, en fait, de faire le choix d'avoir des premières salles qui sont vraiment, qui sont monochromes, donc qui sont noires ou blanches, et petit à petit, en fait, d'expliquer aux visiteurs que toute cette recherche de noir et blanc, en fait, n'a pas pour but uniquement le noir et blanc, mais elle a pour but de nourrir la perception de la couleur. Donc, en retravaillant le noir et blanc, Marc Chagall s'intéresse aux valeurs de couleur, à l'intensité de la lumière, au contraste, et finalement, toutes ces recherches lui servent, quelle que soit la technique utilisée, donc sculpture, céramique, peinture ou œuvre graphique, toutes ces recherches lui servent à approfondir cette notion de couleur.
Mérette Meyer, vous dites que le visiteur n'aura jamais été aussi proche de l'intimité de son atelier.
Oui, dans la deuxième salle, le visiteur est invité à découvrir une atmosphère d'atelier avec quelques sculptures, des céramiques et des lavis sur papier. Et avec la juxtaposition de plâtre et de bronze, on a et une grande photo qui montre Chagall chez Suss, chez le fondeur, on a un peu l'impression d'être admis dans l'atelier. En tout cas, on sent les allers-retours entre toutes les techniques. C'était aussi le but de cette salle. Ne pas dire que dans la première et la deuxième salle, il n'a fait que du noir et blanc pendant cette époque, à partir de 49-50. Non, au contraire, même si ce sont des salles qui sont plongées dans le noir, pas plongées dans le noir par rapport à une impression de sombre, mais au contraire, que le noir devient vraiment de la lumière et de la couleur, comprendre à quel point cette exploration et ces expériences à travers toutes les matières et à travers toutes les textures de noir, il arrive à pouvoir saisir toutes les étincelles de couleur.
Ambre Gauthier, vous faites une distinction entre le noir et blanc pictural et le noir et blanc symbolique. Que voulez-vous dire ?
Alors c'est vrai que dans l'œuvre de Marc Chagall, on a un noir et blanc qui va être un noir et blanc pictural, donc c'est la couleur noire et la couleur blanche, et on a aussi ce qu'on a appelé dans l'exposition le noir et blanc symbolique. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le début de l'exposition nous emmène à la fin de la Première Guerre mondiale et au début de la réinstallation de l'artiste en France, donc dans les années 48-50, et que si Marc Chagall travaille sur le noir et blanc, il n'est pas le seul à le faire en France. Donc il prend part de manière plus ou moins détachée, mais à un courant d'artistes qui expose en 1946 à la galerie Macht pour l'exposition « Le noir est une couleur ». Donc en parallèle des travaux par exemple du Buffet ou de Rouault, lui aussi va se réapproprier symboliquement ces valeurs du noir et du blanc qui participent en fait à une redéfinition aussi des valeurs de la France dans l'après-guerre. Donc choisir l'utilisation du noir et du blanc, c'est aussi un moyen pour Chagall de participer à une forme de reconstruction de la France, de l'Europe, et ça n'est pas un hasard si comme d'autres artistes, il utilise en fait ces valeurs du noir et du blanc. Donc comme l'a très justement dit Mairette, il y a toute cette idée autour du noir, le noir couverture, le noir barricade évidemment, donc une forme de protection, et bien évidemment la couleur blanche, donc c'est la luminosité, c'est aller vers l'ailleurs, c'est aussi une forme d'ouverture. Donc on va avoir un peu comme le yin et le yang, on va avoir ces deux couleurs qui en même temps s'opposent et se complètent, et qui constituent dans l'œuvre de Chagall à la fois vraiment une perception picturale et qui ont une dimension symbolique extrêmement forte.
Si le public est depuis longtemps acquis à Chagall, il n'a pas toujours fait l'unanimité chez les critiques. Comment expliquer cet écart, Mairette Meyer, que l'on peut entendre dans certaines des archives d'ailleurs.
Oui, on les entend, d'autant plus que Chagall lui-même s'est jamais prononcé en faveur de tout ce qu'il ressentait et tout ce qu'il a quelque part investi et intégré dans ses œuvres. Aujourd'hui, je dirais peut-être depuis une bonne vingtaine d'années, donc depuis le décès de l'artiste, on s'est intéressé à d'autres lectures que l'œuvre pouvait peut-être proposer. Il faut aussi dire que ce sont aussi les temps qui nous permettent de voir les œuvres différemment. Pensons par exemple à l'aspect politique. Jamais Chagall aurait dit ah si je suis impliqué politiquement. On parlait plutôt de ce repli sur lui-même, le repli sur un monde disparu, alors que le noir qu'il utilise, même si il signifie très souvent aussi le passé, ou ce qui vient de se passer, ou les horreurs du passé, il l'utilise, mais en signifiant que, en juxtaposant justement avec du blanc, donc avec les couleurs et la symbolique de l'espoir, pour éviter que ça arrive. Donc il y a toujours un énorme éventail chronologique, temporel qui se crée, et ce sont aussi ces lectures sur lesquelles il n'a pas vraiment appuyé ou c'est pas appuyé, ne serait-ce aussi que le sens et la compréhension architecturale, même si il a dit lui-même dans des correspondances plutôt personnelles, mais il n'a pas fait de déclaration devant Malraux en disant au Louvre, en exposant les vitraux à Dassa, qui étaient destinés à la synagogue de Jérusalem, que en fait c'est aussi de l'architecture, c'est l'espace qui l'intéresse. Non, tout le monde parle uniquement de l'iconographie. Tout le monde s'arrête sur le plafond de l'opéra, donc l'hommage à tous les compositeurs, mais le fait qu'il ait pensé cet espace, le fait qu'il y ait eu tout ce cheminement à travers toutes ces esquisses préparatoires. Alors, bien entendu, on sait que il fallait attendre peut-être très récemment pour être intéressé à des esquisses. Ça, c'est valable aussi pour d'autres artistes. Aujourd'hui, on sort des croquis, on sort des esquisses, on fait des rapprochements. Donc, on a une autre lecture que pour lui, c'était un document travail. Mais de rendre hommage à ce cheminement, à tout ce qui pouvait se passer dans son intérieur, de tout ce geste qui n'était pas uniquement jeté spontanément et qu'on voit si vraiment le plafond pouvait tenir ou non sur 220 mètres carrés. Ça, aujourd'hui, on a bien entendu beaucoup plus de recul, mais on respecte aussi le fait qu'il ne soit pas tout simplement le rêveur qui puisse projeter une grande composition sans qu'il ait réfléchi ou construit quoi que ce soit avant. Donc, on est amené à aujourd'hui le lire comme un artiste qui construit ce rêve. Qui construit le rêve qu'on veut percevoir comme rêve, alors que c'est vraiment un rêve tout à fait conscient.
Mais Chagall payait-il le fait d'être populaire ou alors d'être un peintre inclassable qui refusait de se laisser enfermer dans une école, dans un mouvement, dans un système ? Merette Meyer.
Bien entendu, en se nourrissant de tous les mouvements déjà au début du siècle, mais en n'adhérant jamais à tous les mouvements, il est peut-être responsable, entre guillemets, lui-même de tout cela, d'avoir traversé le XXe siècle en écoutant tous les mouvements, en écoutant toutes les musiques, en voyant, en regardant toutes les atmosphères, en se nourrissant de tout ce qui l'entourait, il devenait inclassable. Mais il a accepté, quelque part, de vouloir travailler. D'ailleurs, il le dit toujours, c'est le travail qui importe. C'est le lendemain qui importe, tout ce qu'on construit pour pouvoir saisir le lendemain d'une manière artistique. Il n'était jamais satisfait du résultat qu'il avait fait la veille. Donc, c'est le résultat à travers une recherche qui comptait pour lui. Et c'est là où, bien entendu, il n'est pas inclassable, parce qu'il rejoint énormément d'artistes qui ont fait exactement la même démarche, mais d'autres ont appartenu à tel et tel mouvement, alors que lui, il a traversé, et le public pensait que c'était quelqu'un qui se répétait éternellement, ce qui n'est pas le cas.
Mais est-ce qu'on peut dire que ce refus chez Chagall de se laisser enfermer dans un mouvement, dans une école, résultait de son expérience à la tête de l'école des Beaux-Arts de Vitebsk? Vous pouvez d'ailleurs peut-être nous rappeler ce qu'a été cette expérience pour lui et le contexte historique. Un épisode qu'évoquait d'ailleurs l'exposition Chagall-Lissitzky-Malevitch, l'avant-garde russe à Vitebsk au Centre Pompidou en 2018. Ambre Gauthier ou Merette Meyer, si vous êtes plus à même de...
C'est juste qu'il y a plusieurs questions dans une.
Oui.
Alors, dire que l'expérience de l'école des Beaux-Arts a en tout cas conduit Chagall à avoir une perception très singulière à la fois de l'éducation artistique, de l'enseignement et de l'art, ça c'est certain. Maintenant, dire que c'est cette expérience-là en particulier qui a défini son besoin, en tout cas, de se rattacher à aucune école.
De rester à l'écart, en tout cas, d'être attentif, mais non.
Moi, ça me semble beaucoup moins certain, en tout cas. C'est une expérience, bien évidemment, qui est marquante pour lui, en tant qu'enseignant et en tant que directeur de cette école des Beaux-Arts. Mais ce qu'il faut aussi noter, c'est qu'à ce moment-là, en tout cas, il travaille avec d'autres artistes, dont Malevitch, donc d'autres avant-gardes russes. Et le but, quand même, de cette école, même si elle affirme des
singularité, c'est tout de même d'avoir, quand même, au tout début de l'école, un mouvement quand même uni et en tout cas un projet commun qui est aussi lié à une situation politique et à un contexte très particulier. Après, il en découle dans l'art de Marc Chagall et dans sa vie vraiment une décision, un positionnement qui refuse d'adhérer à tout mouvement ou à toute école, mais qui en tout cas, à mon humble avis, est plus lié à des expériences personnelles et aussi à des voyages, à des exils qui font en fait cette singularité. Par exemple, quand il arrive à Paris en 1911... il arrive à Paris au moment où on a encore un reste du mouvement fauve, on a de l'orphisme, on a bien sûr le cubisme de Braque et Picasso. Donc il emprunte à tous ces mouvements, mais volontairement, il choisit de ne pas adhérer au mouvement cubiste, ou en tout cas de ne pas faire des recherches cubistes, uniquement ses recherches. Il inclut toujours son propre univers, sa propre expérience, expérience picturale, expérience personnelle. Et ça, ça va vraiment être une constante tout au long de sa vie. Mais aussi parce que c'est un esprit singulier, un esprit libre, finalement, qui a des attaches, qui sont celles de la Russie blanche, de Vitebsk, qui a des références culturelles, qui sont des références à la fois russes, à la fois juives, de par sa naissance dans une famille juive hassidique. Et finalement, la richesse de son art va être la combinaison de toutes ces influences et de tous les mouvements qu'il va découvrir. Et on a exactement la même chose qui se passe en début des années 20, 1924, en France, à Paris, au moment où le mouvement surréaliste avec André Breton et la publication du premier manifeste, bat vraiment son plein. Et tous les surréalistes, en fait, se regroupent autour de Chagall et trouvent bien évidemment dans l'art de Chagall des échos à leurs propres aspirations. On a bien évidemment le thème du rêve, le thème de l'expression de l'inconscient, des figures inversées de la conscience et de l'inconscience. Et pourtant, Chagall, dans ses écrits, d'ailleurs, le dit très bien, il trouve le surréalisme un peu curieux, il ne comprend pas vraiment ce qu'André Breton Éluard Soupeau essaye de faire, parce que finalement ce qui pour lui est une expression de son art et de tout son être ne peut pas avoir comme terme surréaliste. Pour lui c'est son art, c'est son travail, mais il refuse en fait toute catégorisation et toute appartenance à un mouvement, bien que de nombreux mouvements aient souhaité le récupérer par la suite.
Mérette Meyer. Je pense que l'école à Vitebsk a quand même conduit à quelque chose, si on peut vraiment en déceler une certaine forme. C'est peut-être une pédagogie symbolique qui se lie à travers toute son œuvre. C'est justement de refuser le classement, cette mise dans un tiroir que tous les spécialistes dont tous les spécialistes ont toujours besoin pour pouvoir comprendre un artiste, et tout simplement respecter aussi le rayonnement d'un individu, d'un artiste qui reste individuel et qui veut rester individuel tout en se nourrissant toujours des mouvements extérieurs. Donc quelque part, cette lecture universelle, une pédagogie de pouvoir gagner en liberté et de saisir les moments de liberté rend quand même quelque part un artiste ou chaque être humain très responsable. C'est vers cette responsabilité de liberté qui nous renvoie à travers son œuvre.
Et c'est sans doute cette sensibilité, ce besoin de liberté qui aura sauvé Chagall d'un destin semblable à celui de Malevitch et de Lissitzky.
Tout à fait, oui. Donc il a, même si c'était très douloureux pour lui de quitter cette école alors qu'il l'avait fondée, et il avait fait appel aux artistes Malevitch, Lissitzky et les autres élèves, de se rendre compte que peut-être qu'il n'était pas vraiment fait pour cette pédagogie quotidienne, à partir du moment qu'il y avait peu de compréhension, disons comme une réponse à un diktat, de répondre à des formes exclusives et de ne pas admettre la liberté de voir d'une manière un peu plus large, un peu plus généreux. Et c'est peut-être aussi grâce à notre grand-mère, à Bella Chagall, qui a dû attirer son attention aussi peut-être à sa fragilité personnelle, qu'il a décidé ensuite de lâcher et de continuer son cheminement d'artiste et de ne pas admettre que ça pourrait correspondre à un échec. C'était pas un échec dans ce sens. Il avait fondé une école qui a eu énormément de succès et beaucoup de retentissement, mais il est parti la tête haute et pour pouvoir réaliser une œuvre qui finalement a gagné en rayonnement.
Après son expérience de commissaire des Beaux-Arts de Vitebsk, son travail pour le décor du théâtre juif de Moscou peut-il être vu comme un retour à la source de son inspiration artistique, un moment important dans sa production, dans sa peinture, Meret Meyer? Vous parliez de l'espace déjà qu'il a appréhendé pour ce lieu tout à l'heure. Enfin, pas le même espace, mais...
Oui, déjà, avant de créer l'école, il avait réalisé des décors pour le théâtre d'art juif, donc il s'était déjà consacré aux œuvres pour la scène. C'est vraiment une forme artistique qui lui tenait énormément à cœur. Et de pouvoir réfléchir à cette synesthésie entre tous les arts. C'était vraiment une composition, une forme artistique qui lui correspondait vraiment au plus profond. On le voit d'ailleurs dans les premières œuvres, même avant de faire des esquisses pour le théâtre d'art juif, les œuvres sont des scènes de théâtre ou des films avec des personnages qui sortent, qui reviennent. Et donc il y a énormément de mouvements qui ont été approfondis grâce à cette commande du théâtre d'art juif, mais bien sûr nourri par ce passage qui est vraiment plus qu'un passage de l'école de Vitebsk, étant donné que toutes les formes suprématistes s'inscrivent dans cette articulation de l'espace. Donc c'est pas un espace tel qu'il aurait fait sans avoir fondé cette école, sans avoir travaillé avec les autres artistes. Non, au contraire, c'est un excellent exemple pour démontrer à quel point chaque vocabulaire qu'il rencontre, qu'il expérimente, qu'il explore, qu'il comprend et saisit d'une manière très très profonde, à quel point il restitue et il en fait autre chose, comme si c'était un vocabulaire qui était toujours aussi le sien.
L'univers poétique de Chagall était au fond par nature peu accordé au matérialisme historique et au plan quinquennal. Quelle relation a-t-il eu par la suite, avant et après-guerre, avec le milieu intellectuel et artistique occidental, qui, pour une bonne part, aura été longtemps sous le charme de l'URSS et d'une indulgence coupable pour ce système, et même pour Staline? On pense à Picasso notamment. Meret Meyer.
Pendant toute la période des années 20 et 30, il garde, toute la famille d'ailleurs, garde des contacts autant que possible avec des intellectuels russes qui étaient communistes d'ailleurs, qui ont malheureusement eu un sort absolument dramatique quand ils sont retournés. Donc il ne s'est pas du tout détourné de sa patrie et de sa de l'engagement politique qui est toujours resté le même si la France et les critiques français l'ont défini comme le grand peintre poète, le rêveur, étant donné que il voyait surtout aussi la transparence de l'espace pictural avec les bouquets de fleurs, alors que les bouquets de fleurs étaient soit, on pouvait les considérer comme soit des autoportraits, soit aussi d'autres messages pour marquer, signifier une symbolique, un geste envers les pays ou transversal entre les pays, sans approfondir vraiment uniquement le côté floral sans signification. Mais lui-même n'a pas corrigé ses critiques. Au contraire, il était bien entendu très très honorée de pouvoir travailler en France, de pouvoir exposer en France, mais conscient de la situation politique en Europe. Rappelons aussi que dès les années 20, 24-25, il y a les premières manifestations, non, plutôt en 1923, les premières manifestations d'antisémitisme en Allemagne. Il découpe, c'est plutôt notre grand-mère qui découpe des communiqués de presse en allemand. Et ils font des livres de communiqués de presse dans lesquels on voit à quel point la situation politique les interpelle, les rend certainement anxieux. On voit aussi à quel point la palette se modifie, les compositions se modifient, bien sûr d'une manière moins évidente qu'il n'a pu le faire auparavant, mais il y a des portraits de juifs qu'il reprend. Pour aussi rendre hommage à ces figures qui sont vouées à la disparition. Donc, il reste très très engagé aussi vis-à-vis des intellectuels de Russie, aussi en France, même s'il n'en parle pas beaucoup dans les sociétés ou dans les salons français, de peur de ne paraître peut-être pas assez attaché à aux valeurs françaises. Donc c'est quelque chose qui reste quand même plutôt confiné à des discussions avec des poètes yiddish ou des personnes qui sont de passage ou des amis russes qui partagent tout à fait le même engagement.
Revenons peut-être au premier temps de son histoire. On ne peut comprendre l'œuvre de Chagall si l'on méconnaît le monde d'où il venait, le pays, l'époque de son enfance, de sa prime jeunesse à Vitebsk, dans ce qui est aujourd'hui la Biélorussie. Comment décrire le monde dans lequel Marc Chagall a grandi, Ambre Gauthier ?
Alors, Marc Chagall est né à Vitebsk, donc qui est une ville de Russie blanche, donc l'actuelle Biélorussie. Donc, ce qui nous est parvenu de Vitebsk, ce qui est assez intéressant, c'est que quand on lit certains articles, on a toujours cette image en fait d'un Vitebsk qui se résume uniquement au shtetl, donc c'est-à-dire vraiment à une ville juive extrêmement pauvre, fait de petits commerçants ou vraiment un monde qui est pauvre et qui n'est pas forcément ouvert sur un monde culturel. Et ce qui en fait est faux, parce que Vitebsk était une ville beaucoup plus grande, une ville relativement riche, avec des aspirations culturelles, avec bien évidemment des synagogues et des lieux de culte, mais pas uniquement. Donc il y avait aussi une école d'art, c'était un lieu de passage, un lieu d'échange. Et l'univers dans lequel Marc Chagall grandit, donc c'est à la fois cette ville qui finalement est quand même relativement ouverte sur l'extérieur, avec l'accès à la culture, l'accès aux livres aussi, et dans une famille de culture juive hassidique. Donc c'est-à-dire qu'il a cette forme, dès le début, de double culture qui va avoir une influence considérable sur son art.
Quels sont d'ailleurs les thèmes, au sens presque musical, les motifs, les récurrences venues de ce monde du shtetl, de Vitebsk, de ce coin de Biélorussie, à la charnière du 19e et du 20e siècle, que l'on retrouvera tout au long de l'œuvre de Marc Chagall?
Alors, ce qui est intéressant avec Vitebsk, c'est que bien évidemment, c'est une ville qui, par sa topographie, par sa géographie, et aussi parce que Chagall a pu voir de par sa fenêtre ou dans les cours de ferme, va définir en fait des motifs récurrents de son art. Donc, on a une iconographie qui se met en place dès le début de sa carrière et qui va l'accompagner tout au long de sa vie. Donc, je pense notamment, bien évidemment, aux églises orthodoxes, à toute une forme de bestiaire, donc à des coqs, des chèvres, des vaches, des poules. Et ce qui est finalement ce qui est extrêmement fort et profond dans son art, c'est que ce sont des motifs visuels récurrents qui renvoient évidemment à l'enfance et à des temps passés, mais il ne va pas du tout les garder uniquement comme une mémoire ou comme une espèce de forme de nostalgie. C'est-à-dire qu'il va les réemployer dans son art dans les années 20, 30, 40, 50 et finalement jusque dans les années 80, mais toujours en transcendant ces motifs et en les faisant recouper avec des événements politiques, des événements actuels. Donc finalement, c'est une espèce de mémoire vive qu'il transporte avec lui. C'est une partie intégrante de son art, de son être, mais qui a vocation en fait à être
transformer. Ça a vraiment une capacité évolutive. Et la force de Marc Chagall, de tout son art, va être finalement d'arriver à rendre actuelle une iconographie et des thèmes qui sont liés à son expérience personnelle. Et finalement, en faisant devenir cette iconographie universelle et en arrivant à nous transmettre ce que lui a vécu et en l'actualisant.
Merette Meyer, vous êtes allée à Vitebsk, la ville natale de votre grand-père. Il n'y subsiste rien du temps, du monde d'avant, mais vous dites pourtant avoir compris là-bas beaucoup de choses de Chagall.
Oui, même si Vitebsk a été détruit à 99%, disent les Vitebskois, il est très étrange de ressentir une atmosphère qui nous semble renvoyer à l'époque de Chagall. Ne serait-ce que, bien entendu, le fleuve, qui était aussi important pour lui que tous les autres éléments, mais le fleuve avec ses ponts, c'est un élément géographique qu'il reprend dans beaucoup de compositions, qui est donc qui marque aussi la fluidité, la connexion avec d'autres pays, avec l'élément de l'eau et bien entendu le passage entre deux rives, ce qui a toujours été très très important. Les deux rives peuvent signifier le passé et l'avenir, droite et gauche bien entendu, deux villes ou deux pays ou deux mondes divergents qui sont toujours liés et qui restent toujours liés. Donc il s'est toujours inspiré, il a été imprégné par cette géographie, par cette topographie de la ville, alors que le ghetto juif dans lequel ils étaient confinés à vivre était au bord de la Dvina, donc c'est la raison pour laquelle c'était aussi très important, alors que les synagogues et les églises orthodoxes étaient plutôt sur les hauteurs. Il était aussi important de savoir que il y avait une gare qui était qu'on pouvait atteindre par le train en venant de Saint-Pétersbourg, donc une ville quand même qui était facilement
accessible
et joignable. Donc cette atmosphère, elle est aujourd'hui encore plus que palpable. Et quand vous venez par exemple de Minsk à Vitebsk et vous arrêtez n'importe où sur la route, vous voyez ces palissades, les petites maisons que vous voyez aussi à Vitebsk. Vous voyez surtout aussi la manière dont la nature a poussé. Donc c'est comme s'il y avait un agencement d'arbres et de végétation qui est différente, ou les jardins que ce que vous voyez en France dans les jardins. Donc vous pouvez vraiment faire une différence. Et c'est exactement ce rythme de végétation, ce rythme de nature et les couleurs entre elles, le grand éventail de couleurs, les fraises de bois, je veux dire, ou les champignons qui poussent, alors que ça n'a rien d'exceptionnel et d'extraordinaire, mais ça a créé une fondation en lui-même, et c'est exactement cette atmosphère que moi j'ai ressentie quand j'y suis allée il y a plus de 22 ans pour concourir à une première exposition des 5 expositions que nous avons réalisées au Bélarus.
Comment Chagall est-il devenu peintre? Comment s'est fait au tout début son apprentissage, sa formation, Ambre Gauthier?
Alors Marc Chagall présente des dispositions très très tôt pour le dessin. Donc comme il le dit lui-même dans son autobiographie romancée, Ma vie, dès le début, pour lui, sa première forme d'expression a été le chant, puis le dessin. Donc il commence à dessiner très jeune. Il suit ensuite une formation à Vitebsk. Et petit à petit, son maître est Yehuda Pen, donc qui est un peintre classique avec des références culturelles, voilà, russes du fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Et petit à petit, ses prédispositions pour le dessin vont bien sûr l'amener à la peinture. Donc il va étudier à Saint-Pétersbourg, début des années 1908-1910. Et petit à petit, en fait, ce qu'on a abordé tout à l'heure, finalement sa formation, qui va être une formation de peintre classique, Très rapidement, dans ses œuvres de jeunesse, on va noter finalement cette fusion des styles, c'est-à-dire une peinture classique avec des règles de perspective, de proportion, et en même temps des thèmes qui viennent de son éducation, de son milieu culturel. Donc on va finalement toujours avoir dans son œuvre, et dès le début, cette espèce de syncrétisme en fait entre une culture populaire russe, juive hassidique, et très rapidement une culture académique.
Et pour le jeune homme qui est Chagall, que représente la France, Paris, où il va partir en 1911 pour un séjour de 3 ans grâce à une bourse ?
Alors sûrement une terre de liberté. Donc les échos qu'on a pu en avoir, tels qu'on peut les lire dans ma vie aussi. On ne sait pas s'il a une vision très définie de ce qu'est Paris avant son départ et son arrivée en 1911. Il a finalement une idée de Paris telle qu'on peut en avoir quand on a entendu des intellectuels, des artistes russes en parler. Donc il a sûrement une vision qui est idéalisée, qui est nourrie aussi par beaucoup de lectures, une approche littéraire. Mais ce qu'il y découvre en tout cas en arrivant en 1911 semble en tout cas extrêmement fort, mais peut-être éloigné de ce qu'il imaginait avant de partir. Donc il est pris bien sûr dans un tourbillon d'énergie artistique,
de rencontres,
de bouillonnement humain. Donc très rapidement il rencontre Apollinaire, Sandrars, Picasso, les artistes de la ruche. Il s'y installe en 1912. Donc on a vraiment finalement cette explosion de rencontres qui va nourrir son art et faire petit à petit aussi cette fusion entre l'univers singulier personnel et tous ces mouvements d'avant-garde.
Merette Meyer.
Oui, l'image qu'il a en Russie de la France ou de Paris se traduit surtout par des reproductions en noir et blanc de peinture française, d'art français. Donc, en arrivant à Paris, en allant dans les musées, ce qu'il aura vraiment, bien sûr, envie de faire sans cesse, c'est de découvrir les vraies œuvres en couleur et de voir à quel point la vie lui a vraiment donné raison de faire cette démarche, de vraiment vouloir absolument venir à Paris pour découvrir cette liberté dans la peinture.
Quelle a été l'influence sur sa peinture et peut-être sur sa vie de son premier séjour en France de 1911 à 1914? Peut-on dire que c'est à Paris que Chagall est devenu peintre, Merette Meyer?
Marc Chagall était déjà peintre avant de venir à Paris, alors que les années parisiennes n'ont pas été simples pour lui. Au niveau commercial, il n'y a pas eu le moindre succès, ce qui prouve bien sa détermination de rester peintre et d'essayer de traduire tout ce syncrétisme entre tous les mouvements qu'il rencontre et de rester lui-même, c'est-à-dire de toujours inclure des éléments de son propre univers pictural, de les inclure dans toutes les grandes compositions qu'il réalise à la ruche. Au contraire, il se dynamise, il reçoit une énergie qu'il n'aurait pas reçue ni à Berlin ni à Vitebsk précédemment, bien entendu, et Paris lui donne bien sûr une force supplémentaire pour appuyer son métier de peintre.
Ambre Gauthier.
Ouais, ce qui est intéressant justement avec ce passage parisien, c'est non pas que ce passage le fait devenir peintre, parce que bien évidemment il était peintre avant, mais en tout cas ça lui offre des champs de possibilités qui n'existaient pas, ou en tout cas auxquels il n'avait pas accès en Russie. Donc on en a un petit peu parlé, mais il y a cet accès au musée. C'est-à-dire, c'est aussi le fait de pouvoir aller au musée du Louvre et de pouvoir voir physiquement certaines œuvres, donc des peintres du 19e siècle français, mais aussi des Goya, des Velázquez, d'avoir aussi cette ouverture sur une peinture européenne classique, mais beaucoup, beaucoup plus large. Et c'est cette double ouverture, cette ouverture sur aussi des arts des siècles passés et aussi sur des avant-gardes qui n'étaient pas nécessairement présentes en Russie. Donc fauvisme, orphisme, cubisme. Et finalement, le syncrétisme dont il est question, c'est aussi un syncrétisme qui se fait dans son œuvre par un regard sur le passé et un regard sur le présent. Donc on a toujours ce double langage voyage dans l'œuvre de Marc Chagall entre passé et présent, mais c'est vrai que ce regard est encore plus appuyé à partir de 1911.
En 1914, Chagall retourne en Russie pour une période qui sera bien plus longue que prévu à cause de la Première Guerre et de la Révolution. Il s'y marie avec Béla, votre grand-mère, Mérette Meyer, une période russe que nous avons évoquée tout à l'heure, à la fin de laquelle en 1922, alors qu'il souhaite s'installer en France, il termine un texte autobiographique dont il existe à présent deux traductions françaises. Vous l'avez évoqué donc sous deux titres différents, Ma vie, paru en 1931, et une nouvelle traduction, Mon univers, peut-être plus fidèle, puisque c'est une traduction à partir du texte yiddish original qui est paru en 2017. Qu'est-ce qui s'impose alors à Marc Chagall pour qu'il ait besoin d'écrire à seulement 35 ans ce texte autobiographique, Mérette Meyer?
Oui, aujourd'hui, quand on apprend qu'une jeune personne de 35 ans écrit son autobiographie, on prendrait avec un peu de sourire ou de sarcasme. Il faut quand même se rappeler que Chagall avait décidé de quitter la Russie, ce qui était pas évident. Et donc cette écriture, cette rédaction de Ma vie lui sert d'une part de laisser derrière lui ce qu'il avait vécu. Donc il écrit justement sur cette période pour conclure aussi quelque part une époque et lui permettre de recommencer autre chose, parce que c'est ça qui est important, c'est de pouvoir garantir une renaissance pour son œuvre ou à titre personnel également. Donc il était important de pouvoir décrire cette période. Il y a aussi d'ailleurs un manuscrit en russe, en supplément du manuscrit en yiddish, qui se trouve dans les archives de la galerie Tretiakov. C'est toujours un projet qu'on espère pouvoir réaliser un jour. C'est de faire une comparaison entre tous ces manuscrits et de voir les différences. Il est évident que la traduction en français, qui a donc été publiée tardivement suite à un refus de Béla Chagall de le faire traduire dès les années 20, car elle n'était pas satisfaite de la traduction, et comme elle y a contribué et collaboré avec Marcel Arlan en 31, c'est une version qui en découle, qui est beaucoup plus romancée que probablement l'est la version en russe, qui est beaucoup plus directe, immédiate, spontanée, sans réfléchir à l'impact qu'une biographie ou une autobiographie peut avoir.
Merci Mérette Meyer et Ambre Gauthier. Nous allons écouter les archives qui composent la première partie de cette nuit Marc Chagall. Dans un instant, Marc Chagall dans Couleur de ce temps de Georges Charbonnier en 1953 sur la chaîne nationale. Interview de Marc Chagall à propos de Gogol par Robert Sadoul en 1952. L'œuvre gravée de Marc Chagall, un numéro de Présence des Arts proposé par François Le Targa en 1980. Puis Marc Chagall, l'invité du lundi de Pierre Descargues dans les après-midi de France Culture en 1977. Nous retrouverons dans un peu plus de 2h30 pour la deuxième partie de notre entretien. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.